fucker. One more. Olivia, are you going to sit and chat?
Yeah, I could
say. No, please. Make yourself comfortable. What do you want to do?
Really?
I'll run the slide for you, so whatever what you want
to
do. That's what I thought. The mover and a shaker.
Look, so I'm going to be sitting all day. You can't stand around with a gack.
I'll
walk behind people.
Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. S'il vous plaît, si vous pouvez vous asseoir. Bien, bonjour à tous. Donc, c'est mardi aujourd'hui. J'adore ça, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, le premier jour de l'école. Tout le monde était content, on était jeunes. Bien, nous sommes donc mardi. Et mardi, c'est le jour des regroupements. Donc, ceux qui ont entendu, donc ont participé aux sessions précédentes, hein, ceux qui ont essayé de tirer et profit de toutes les paroles qui sortaient de ma bouche, eh bien, vous savez que le jour des groupements, c'est le jour où vous devez essayer de goûter les différentes parties du gâteau que forme ICANN, non? Donc, voilà, c'est le jour où vous allez devoir essayer de rentrer dans le CCNSO, dans l'Atlarge, dans les parties de groupement commercial ou une partie prenante. Rappelez-vous que vous pouvez vous lever, vous pouvez sourire, vous pouvez... ne sortez pas quand même de la salle, hein, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, vous êtes tous, donc, vous appartenez à la communauté d'ICANN. Hein, donc, cherchez un secteur, un endroit dans lequel vous vous sentez à l'aise, dans lequel vous sentez que vous allez pouvoir faire quelque chose. Hein, donc, si pendant la journée vous avez des problèmes, moi-même, hein, nous sommes là pour vous aider, hein, pour vous guider. Hein, venez nous voir, n'abandonnez pas, ne renoncez pas. Hein, venez nous voir, dites-nous, voilà, je suis un petit peu perdue, hein, aidez-moi et retrouvez donc la bonne direction. Ensuite, ce que j'aime, hein, lorsque je rentre dans la salle le deuxième jour, hein, c'est votre bavardage. Hein. Vous asseyez, vous allumez vos ordinateurs, mais vous commencez aussi à partager, à bavarder, à partager ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Hein, donc, du point de vue professionnel et du point de vue personnel, hein, c'est-à-dire ça c'était bien, ça c'est bien, ça appartient aussi au travail que vous faites dans le domaine d'ICANN. Hein. Donc, vous vous encouragez mutuellement, vous partagez quelque chose, vous faites connaissance les uns avec les autres, donc ça fait aussi partie de l'expérience d'ICANN. Donc, rappelez-vous, c'est pas seulement une question de participer aux réunions, il y a aussi les post-cafés, le bavardage. Hein, quelque chose que vous allez pouvoir dire, tiens, voilà quelqu'un que je connais de d'ICANN, quelqu'un d'important, hein, etc. Donc, voilà. Ça aussi, ça fait partie de votre formation. Hein, donc, et maintenant, puisqu'on parle d'énergie, hein, ce matin, nous avons le plaisir d'avoir le président d'At-Large ici avec nous, le président du groupe d'At-Large, qui va partager un petit peu avec nous et ce qu'est At-Large, ce qu'est ALAC. Et donc, je vais donner la parole à Olivier. Merci beaucoup, Janice. Donc, merci pour cette présentation. Ne me demandez pas quand même un autographe. Bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du comité de conseil d'At-Large et je vais essayer de ne pas parler trop vite parce que les pauvres interprètes sont fatigués. Donc je vais essayer de ne pas parler trop vite. Si par hasard je parle trop vite, dites-le moi. Alors qu'est-ce que c'est que le conseil consultatif d'At-Large? Voyons la première diapo, s'il vous plaît. Bien, voilà, vous le voyez ici. Hein. Donc, on risque toujours d'avoir un problème technique. Hein. Bien, mais non, c'est bon. Donc, combien d'entre vous ont déjà vu ce diagramme auparavant? Bien. Bon, alors, je pense que tout le monde a commencé par ce diagramme pour voir où il se trouve dans le modèle multipartie prenante d'ICANN. Nous sommes dans la case qui est en dessous de la case de At-Large. Et là, on dit utilisateur d'Internet. Et c'est exactement ça. Nous sommes ici dans ICANN pour présenter le point de vue des utilisateurs d'Internet. On ne peut pas représenter les utilisateurs d'Internet parce qu'il y a 2,1 milliards d'Internet. Donc, c'est difficile. Mais par contre, on peut offrir des conseils concernant ce qui, à notre avis, va dans l'intérêt des utilisateurs d'Internet. Et At-Large en lui-même et le conseil consultatif d'At-Large fait des commentaires sur tout ce qui se fait, sur tout ce qui se passe au sein d'ICANN. Parfois, on fait des commentaires sur ce qui se passe aussi à l'extérieur d'ICANN, mais lorsque nous le faisons, nous sommes toujours liés par notre mission, c'est-à-dire que nous allons nous engager sur des choses qui affectent ICANN, mais dans ICANN, nous pouvons faire des commentaires sur la structure, sur les processus, sur les programmes qui existe au sein d'ICANN. Donc, c'est comme ça que nous... c'est ça qui est notre fonction, disons. Passons à la diapo suivante. Vous voyez ici le diagramme de l'organisation. Hein, ici, vous voyez que tout le monde... Ce qui nous différencie, c'est qu'ici, chez ICANN, nous sommes divisés en régions. Chacun appartient à une région. Hein. Donc, nous devons avoir une empreinte la plus importante possible sur le monde entier. Nous devons pouvoir toucher les gens partout et cette diversité est très importante. Donc, on pense qu'on peut faire quelque chose en réunissant tout le monde dans un groupe important, fournir des conseils à un président, par exemple, et avoir un système de vote direct, être capable d'accéder, en tout cas de fournir des informations sur tout ce qui se passe au sein d'ICANN directement. Donc, ce modèle que nous appelons un modèle flat a été testé auparavant et il ne marche pas parce que lors des élections, lorsque les membres du board doivent être sélectionnés, il n'y avait pas moyen de savoir qui étaient les électeurs. Hein, avec 2 milliards d'utilisateurs, comment on fait pour que ces gens votent, hein? Donc, un grand nombre de gens qui étaient enregistrés, qui appartenaient à une organisation, hein, oubliés ou laissés tomber ou ne votaient pas. Hein. Donc, à la fin, on a fait une restructuration vers l'année 2002-2003. Et la structure actuelle a été donc fondée. On a 5 différentes régions. Chaque région a une organisation At-Large qui est la sienne. Hein, c'est ce qu'on appelle les RALO. Et les organisations de la région At-Large ont une région africaine, AFRALO, une région Asie-Pacifique, APIRALO, une région pour l'Europe, EURALO, etc. Et ici, en Amérique latine et les Caraïbes, c'est l'ACRALO. Hein. Et vous avez de la chance parce que parmi vous, vous avez beaucoup de représentants, de membres du LACRALO qui sont ici présents aujourd'hui, donc les délégués de l'ACRALO appartiennent à la structure At-Large, l'organisation qui... Et c'est joint hein, aux structures At-Large. Hein. Donc, ça peut être des clubs d'utilisateurs d'ordinateurs, des clubs d'utilisateurs d'Internet. Il y a tout un large éventail de membres. Hein. Et ce qu'on a, c'est que ce sont des membres qui sont diversifiés au niveau géographique, mais aussi diversifiés parce qu'ils représentent toute la population, l'ensemble de la population de la région, ce qui est très important aussi. Donc, on a un bon échantillon des utilisateurs Internet ici. Hein. Et cette structure At-Large est regroupé dans des râleaux et chaque râleau a la possibilité de sélectionner deux personnes dans ce comité consultatif d'at-large, le ALAC. Et c'est là que tout le monde se trompe. Hein. At-large, comité de consultatif d'at-large et ensuite ALAC. Donc tout le monde se mélange un petit peu. Mais en réalité, ALAC, c'est seulement le nom du comité. Vous remarquez qu'il y a deux membres qui sont sélectionnés par région. Un membre qui est sélectionné par une partie de l'ICANN qui s'appelle le NOMCOM, le comité de NOMCOM, de nomination. Hein. Vendredi, on va vous en parler. Vous devriez commencer par cela parce qu'ils nomment, c'est eux qui nomment les personnes au sein d'ICANN. Bien, donc vous entendrez parler du comité de nomination, mais ce qui se passe dans ce comité de nomination, c'est que nous avons 5 sièges dans ce comité de nomination sur 20 personnes et ils nomment une troisième personne par région, cette troisième personne par région. Non? Est-ce qu'on peut avoir les... Est-ce qu'on peut, on peut poser les questions à la fin? Hein, s'il vous plaît. Hein. On va faire une, ce qu'on appelle une queue pour les questions. Hein, donc, vous vous mettez dans la queue. Bien. Donc, on a une, environ un comité de 16 personnes qui va sélectionner une personne qui va siéger au directoire d'ICANN. Et c'est actuellement Sébastien Bachelet. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu hier. Bien. Et il était aussi... à la réunion de fellowship hier. Hein. Donc, Sébastien Bachelet est sélectionné par le comité at large, mais il n'agit pas au nom du comité et consultatif de at large parce que les membres du directoire doivent être indépendants. Mais ils sont sélectionnés par nous tous. Et lorsque l'on pense que quelqu'un qui a été sélectionné par notre communauté et doit avoir les mêmes idées que nous et doit avoir les mêmes... doit penser de la même façon que nous, hein, c'est ce qui, parce que finalement, c'est ce qui se passe dans la pratique. Et c'est comme ça que nous sommes organisés. Donc, sur notre site Internet, vous avez donc cette diapo. Et plus tard, on peut demander au délégué de l'ACRALO de nous apporter une copie de ce diagramme lorsqu'il sera imprimé pour vous le distribuer. Je crois que ce diagramme se trouve sur le wiki ou sur notre site Internet, ce diagramme, le précédent. Voilà, celui-ci. Où est-ce qu'il a été posté sur... Ah, bon, donc, d'accord. Heidi a dit qu'il était sur le wiki. Hein. Ce diagramme se trouve sur le wiki. Bien, comment fonctionne ce processus? Si l'on regarde de près, c'est comme ça que ça marche. On est un système qui fonctionne de manière ascendante. Qu'est-ce que ça veut dire, ascendant? Ça veut dire qu'au bas de ce diagramme, on a les structures at large qui s'appellent les ALS. Chaque ALS, comme je l'ai déjà dit, appartient à une région d'at large, hein, une organisation régionale d'at large, et ces organisations appartiennent, hein, à ALAC, le conseil consultatif, et ALAC va donc faire des déclarations. Quelqu'un dans la région, ou quelqu'un au niveau d'ALAC, ou quelqu'un dans une ALS peut dire, voilà, j'ai tel point de vue. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, hein, il faut que quelqu'un vous propose donc de rédiger cela avec vous. Est-ce que je peux rédiger cela, hein, et je m'assurerai que tout le monde puisse participer à la rédaction de cette déclaration. Donc on va faire une déclaration préliminaire avec toutes les structures at large et cela va être donc posté sur le site wiki. Vous savez ce que c'est que le wiki? Il y a des gens qui ne savent pas? Alors, on va donc poster cela sur le wiki et la page wiki va être créée. On va mettre cette déclaration préliminaire sur le site de wiki. On essaye d'avoir plusieurs jours pour que tout le monde puisse avoir le temps de lire cette déclaration, entre 5 et 10 jours, tout dépend de la vitesse à laquelle il faille travailler. Toute la communauté va pouvoir faire des commentaires sur cette déclaration. On va pouvoir poster ces commentaires en dessous sur la même page et après la période de commentaires, au sein d'At Large, la personne qui a rédigé cette proposition, assistée avec d'autres personnes qui l'ont aidée, assistée par d'autres personnes, vont incorporer cette proposition, cette déclaration dans d'autres commentaires qui sont formatés selon un format spécial et qui sont envoyés à la période de commentaires publique qui est ouverte à la communauté. Vous en avez parlé? Oui. Bien. Donc, ICANN donc, va créer une période de commentaires publics, va ouvrir une période de commentaires publics. On veut savoir ce que la communauté pense de ceci ou de cela, du programme de nouveau GTLD ou d'une question spécifique qui a été posée. Et à ce moment-là, le comité consultatif d'être large va proposer une déclaration spécifique sur ce commentaire parce que nous devons faire entendre notre voix. Tout est très bien organisé et le poids de la déclaration qui va en découler dépend d'une personne. Cette déclaration provient d'une communauté dans sa totalité. Nous avons beaucoup de pouvoir au niveau de ce commentaire en général, une fois que tous les commentaires ont été reçus de la part de tout le monde. Et par conséquent, on va pouvoir influencer les choses, la façon dont les choses fonctionnent et la façon dont les processus se sont mis en place au sein d'ICANN à travers ces commentaires et ces propositions. Donc, ce qui est important, c'est que ce conseil consultatif peut faire des commentaires sur ce qu'il veut. On n'a pas besoin d'attendre qu'un commentaire public soit ouvert. On peut commenter avant ou après. On peut commenter, on peut faire des commentaires sur des choses qui ne sont même pas présentées au niveau des commentaires publics. S'il y a quelque chose dont on veut parler, si on veut alerter la communauté sur quelque chose, si on veut alerter le directoire à propos de quelque chose, on peut leur écrire directement. On peut écrire directement au PDG d'ICANN. Mais c'est donc un canal qui existe dans le processus de développement de politique qui est donné aux utilisateurs d'Internet du monde entier pour qu'ils puissent donc participer au processus global d'ICANN. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Voilà, et j'ai fini. Donc, merci beaucoup. Je serai ravie de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en a au moins une, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui est dans la queue. Vous n'êtes pas dans la queue. Bon. C'est un petit peu, C'est un peu stressant, donc, de poser des questions, disons, je résume. Bien, bonjour à tous. Je suis Simon. Je viens de Tanzanie. À propos de la structure d'ICANN et du GNSO. Je vois qu'il y a des consommateurs et au niveau d'Atlas, je vois utilisateurs d'Internet. Je ne comprends pas très bien quelle est la différence entre les deux. C'est une très bonne question. Beaucoup de gens ont ce problème de confusion et nous aussi parfois. C'est une mission qui est similaire d'une certaine façon, mais qui, par moment, est tout à fait différente. Le GNSO, le conseil du GNSO, le GNSO s'occupe des noms de domaines génériques, .com, .net, .org, et il s'occupe directement du processus de développement de politique. Donc, il travaille sur le développement des politiques. Nous travaillons sur le commentaire sur ces politiques. Nous commentons ces politiques. C'est un petit peu comme si c'était tes voisins. Toi, tu construis une piscine à côté de chez toi, tu transpires, tu travailles, et tu as ton voisin qui vient et te dit, mais tu vas pas faire ça comme ça, mais tu te trompes, il faut faire ça comme ci, comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu ce que fait la LAC. Ça, c'est notre rôle. Des fois, on embête les gens parce qu'ils travaillent. Ils ont fait beaucoup de travail sur un truc et nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est justement ça, la nature des commentaires. Il faut faire des commentaires d'un point de vue extérieur. On est invité par le GNSO à participer au processus de développement de politique. Et comme ça, quand tu construis ta piscine, tu vas dire à ton voisin, « Ah bon, tu en sais plus que moi? Ben viens m'aider, donne-moi un coup de main pour construire ma piscine. » Voilà, et c'est ce que beaucoup de nos membres font en réalité, en tant qu'individu, en participant au groupe de travail ou en travaillant entre les communautés, en faisant un travail intercommunautaire. Nous sommes invités à participer au travail d'un groupe de travail qui appartient au GNSO et qui appartient à qui est intercommunautaire. On appelle ça comme ça. Pour conclure ici, je dirais que le groupe d'utilisateurs non commercial, par exemple, a des critères spécifiques pour pouvoir, par exemple, participer. Ils ne sont pas structurés de manière géographique. Ce sont des organisations de la société civile, alors que At Large, c'est pas seulement des organisations de la société civile, mais que l'on a aussi des organisations comme par exemple des clubs, un club d'informatique. Ils sont semi-commerciaux. C'est pas des compagnies non plus, parce que les compagnies vont s'occuper de la partie, donc vont appartenir aux groupes commerciaux, regroupements commerciaux. Non, ce ne sont Ce sont des fois des personnes qui, dont le rôle est d'enseigner ou des écoles, de ce type d'organisation qui appartiennent à l'AC. Olivier, je voulais te dire, je pense que c'est important ici. Hein. C'est une très bonne question ici. Marilyn en a parlé hier. Il s'agit de voir qu'est-ce. Parce que nous sommes tous des utilisateurs finaux. Donc, il s'agit de voir, hein, d'être plus spécifique, hein, parce qu'on veut représenter sa région, on veut représenter un programme X, on veut représenter une organisation. Et donc, on se focalise davantage sur la politique d'Internet, le fournisseur de services d'Internet, le commerce, les intérêts commerciaux. Donc, il faut vraiment voir. De quoi est-ce que je veux m'occuper spécifiquement? Et comme AtLarge fournit cette large, grande quantité d'occasions de faire des commentaires, hein, c'est un endroit dans lequel souvent les gens viennent y commencer et apprendre. Hein. Ensuite, on va choisir la voie que l'on veut avoir au sein d'ICANN. Hein, et le secteur dans lequel on veut travailler, hein, voir à quel groupe on veut appartenir, un groupe spécifique. Non, je ne leur dis pas de nous quitter. Je leur dis que les gens peuvent travailler au niveau intercommunautaire. Hein, parce que ce que vous allez apprendre au sein d'AtLarge, on va vous donner des informations qui vont vous permettre de travailler avec les autres communautés. Hein. Nous essayons de créer un tissu, un réseau, hein, intercommunautaire pour que les groupes puissent partager entre eux, travailler, hein, en commun. Donc, il faut aider le GNSO à construire des politiques, à élaborer des politiques, par exemple. On essaye de travailler vraiment ensemble et on essaye d'être la bonne voix au bon moment et au bon endroit. Voilà. Donc, je pense que c'était une très bonne question. Et je voudrais ajouter que, de fait, certaines personnes sont des membres de plus d'un groupe ou d'un regroupement. Hein. Donc, on a des personnes d'AtLarge qui portent plusieurs casquettes. Hein? Et beaucoup de gens dans ICANN portent plusieurs casquettes, des casquettes virtuelles et des vraies casquettes aussi. Mais la plupart des gens vont être quelque chose dans une partie de l'organisation, hein? Et puis dans une autre chose dans une autre partie de l'organisation. C'est pour ça que je parle de casquettes différentes, casquettes virtuelles, bien sûr. Marina. Mais bonjour à tous, bonjour Olivier. La première question, elle est difficile. Je suis Maureen, je représente la région Pacifique, du Pacifique. À propos des ALS, les ALS sont une introduction dans le RALO, dans la discussion, ou entrent dans la discussion des RALO, mais devenir un ALS au sein du système est un processus compliqué. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr. Une structure AtLarge, une organisation qui veut devenir une structure AtLarge doit se présenter. Il y a une série de conditions minimales que l'organisation doit respecter, hein, pour pouvoir jouer ce rôle. C'est très important parce qu'il s'agit d'un processus très sérieux dans lequel ICANN crée un contrat avec une structure AtLarge pour ouvrir une route directe dans le processus de développement de politique et de commentaires de tout ce qui se fait. Donc, d'une certaine façon, on ouvre, hein, ici une brèche et la structure AtLarge, et la structure AtLarge potentielle en tout cas, doit se présenter. Il y a un processus qui s'appelle le processus de diligence due, au cours de laquelle les personnes de la région et les personnes de l'organisation vont regarder la présentation, la demande de candidature, vont vérifier que l'organisation est correcte comme membre, comme site Internet, avec des membres qui sont des individus, hein, pas des organisations, pas des entreprises, des individus. Hein. Il faut s'assurer aussi qu'ils partagent les informations avec leurs membres et qu'ils vont être capables de canaliser les souhaits de la communauté ou de leurs membres dans ce processus d'AtLarge. Il y a une série d'autres critères. Hein. Il y a une série de prérequis minimaux, hein, qui sont sur le site Internet. Hein. Une fois que ce processus de diligence due a été réalisé, cela passe à l'organisation d'AtLarge au niveau régional qui donc va essayer d'analyser ces informations de diligence due et qui va à ce moment-là pouvoir fournir son opinion pour savoir s'ils acceptent ou s'ils rejettent la structure at large qui s'est présentée comme candidate ou l'organisation qui s'est présentée comme candidate pour être donc une structure at large, une ALS. Une fois que cela est fait, on va donner au RALO, le RALO va donner une recommandation au comité de conseil at large, au comité consultatif at large, qui va voter, qui va dire s'il accepte la demande de cette organisation ou pas. Dans la plupart des cas, on accepte ces demandes et on suit, on accepte les recommandations de l'organisation at large au niveau régional. Et à ce moment-là, un contrat est signé entre la structure at large et ICANN. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez choisir, Janice, ma question est courte et dirigée et s'adresse aux ALS, au problème des ALS. Pour appartenir à un LAC et à un RALO, vous devez être une organisation. Vous devez donc Adela Danci de Roumanie. À propos de ce processus pour devenir une ALS et pour appartenir à ALAC, il faut être une organisation ou c'est aussi ouvert aux utilisateurs individuels? Très bien, Angela, c'est une bonne question. J'ai oublié d'en parler. Certaines des régions ont un système pour que les individus puissent devenir des membres. Naralo, par exemple, la région d'Atlarge d'Amérique du Nord, a créé un processus qui permet à tous les individus de se présenter. Ils n'ont pas besoin d'appartenir à une organisation qui existe déjà pour se présenter. Les autres régions sont en train de considérer cette possibilité. Je sais qu'à Euralo, en Europe, et j'appartiens à Euralo, nous avons fait beaucoup de progrès dans ce sens et il y a eu plusieurs possibilités qui ont été analysées. On a choisi la façon de travailler dans ce sens et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura la création d'une structure at large virtuelle qui va accepter tous les membres individuels dans le RALO. Et à ce moment-là, cette structure at large virtuelle va sélectionner une personne qui va voter lorsqu'il y a des élections dans les organisations at large au niveau régional. Mais je sais que d'autres régions considèrent aussi cette possibilité. Les membres de la RALO qui sont ici savent peut-être qu'il y a une assemblée générale qui aura lieu ici, qui va se tenir ici. Peut-être que Fatima peut nous expliquer. Oui, un commentaire. Au niveau du RALO, les membres individuels ont une voix mais n'ont pas le droit de voter. Les membres individuels de l'ACRALO ont le droit de donner leur opinion, mais ils ne peuvent pas voter. Ils peuvent faire leur contribution, mais ils n'ont pas le droit de voter. Dans chaque région, c'est différent. Dans d'autres régions, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas prendre la parole, ils ne peuvent pas voter. Mais maintenant, on encourage de plus en plus la possibilité d'accepter les utilisateurs individuels dans les régions.
Je suis Grace Kadaika du Kenya et je pose cette question parce que c'est ma première fois dans une réunion à ICANN et il me semble donc qu'il est la meilleure occasion pour comprendre cette structure, mais aussi parce que j'aime beaucoup le bruit. Et en fait, si je sais que je peux parler et faire du bruit, ceci m'attire beaucoup. Donc je voudrais que vous expliquiez ceci pour moi, qu'on le décompose et je vais me servir de l'exemple d'Afralo. Les ALS, par exemple, je voudrais savoir comment en Afrique, par exemple, on peut appartenir à ce groupe. C'est une décomposition du modèle. D'accord, on va parler d'Afralo. Alors, Afralo, si vous voyez la diapo précédente, voilà, qui est peint en orange, tout le continent africain. a une voix qui est effective à travers Afralo. C'est clair et c'est simple. Donc vous avez beaucoup de structures à large dedans Afralo. On va prendre Isoc Sénégal, par exemple. Et Isoc Sénégal, et je pense qu'ils se sont déjà présentés parce qu'ils voulaient devenir une structure à large. Ils ne le sont pas? Ah, voilà, on a quelqu'un ici de Isoc Sénégal. Voilà, on cherche toujours à avoir des instructions. Voilà. Alors, Isoc Sénégal s'approche d'Afralo et dit qu'ils veulent appliquer, se présenter comme candidat pour devenir une structure à large. Donc, ils doivent remplir leur formulaire pour se présenter. Ils le remettent à Heidi et ses collègues, donc Sylvia et d'autres qui ne se sont pas levés encore. Et alors, lorsqu'ils se lèvent, ils vont regarder cette candidature. Ils vont l'envoyer pour suivre le processus de diligence due, comme j'ai expliqué. Et une fois qu'ils deviennent une structure à large, Isoc Sénégal devient une partie d'Afralo. Et donc, les gens d'Isoc Sénégal pourront faire partie des téléconférences d'Afralo. Ils ont ces appels tous les mois. Et donc, ils pourront aussi intégrer tous les groupes de travail, non seulement les structures entre les régions. Il y a des groupes de travail dans les régions et aussi il y a des groupes de travail qui couvrent toutes les régions dans la structure à large. Mais il est important de dire que pour la région africaine, on a deux langues pour les appels. Donc, on a interprétation pour, je pense, presque tous les appels. Et les appels mensuels sont interprétés en anglais et en français, c'est sûr. Pour la CRALO, les appels sont interprétés en espagnol et en anglais. Pour les autres régions, on n'a pas d'interprétation parce qu'on a tellement de langues qu'il est difficile de choisir quelle langue interpréter. Mais en Afrique, c'est le français et l'anglais. Et donc, ces personnes participeraient de toutes les affaires d'Afralo, mais aussi devraient avoir un droit de vote pour sélectionner quelqu'un comme délégué pour le comité consultatif à large. Et donc, les gens qui intègrent le comité consultatif à large vont représenter la voix de leur région au sein du comité. C'est ça? C'était ça ta question? Je n'ai pas vu qui était premier. Il faudra choisir. Bien. Elle n'est pas contente. Elle me regarde. Je pense qu'elle va me tuer. Bon, elle revient à la fin de la queue. Je vais poser ma question en espagnol, si possible. Si je ne mets pas mes écouteurs, je vais répondre, mais je n'aurai pas compris la question. Bien, je voudrais exprimer mon idée en espagnol correctement. Donc, voilà pourquoi. Je trouve que c'était très intéressant de savoir que certaines organisations peuvent participer en tant qu'individus. Donc, il me semble intéressant de savoir tout ceci, mais ça me surprend que certains individus telles que personnes physiques puissent participer dans certaines régions et que dans d'autres régions, seulement les organisations accréditées peuvent participer. Donc, il y a des inégalités globales et ceci altère la représentation des utilisateurs finaux. Donc, ceci devrait être discuté en tant que standard pour être appliqué de la même façon pour tous les utilisateurs au monde. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je voudrais savoir ton opinion. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour cela que ça a pris tellement de temps de faire participer les individus sans devoir passer par une structure à large. Bien sûr, les individus qui participent du processus à large, comme Fatima a dit, par exemple, pour votre région, ils n'ont pas de droit de vote. Pour la région Naralo, ils sont regroupés au sein d'une structure à large. Donc, peut-être on a 50 individus qui participent de Naralo, mais ils n'auront qu'un vote pour tous les individus. Et ceci est bien sûr important parce que pour une structure à large, il s'agit donc d'une organisation qui représente 1 000 utilisateurs, par exemple. ils doivent avoir plus de poids qu'une seule personne dans le processus général. Donc, dans certaines régions, ceci n'a pas été décidé encore. Et donc, voilà pourquoi l'option la plus sûre est de ne pas avoir des utilisateurs individuels. Parce que peut-être pour une région, on aura des structures à large qui s'opposeront à au fait que les individus puissent voter. Ils vont dire pourquoi ils ne se rejoignent pas à nous et puis c'est à ce moment-là qu'ils auront le droit de vote. Donc ceci prend du temps, mais pour la dernière révision à large, parce qu'on révise tous les processus des CAN tous les 4 ans à travers un processus formel avec une compagnie externe qui va faire un audit de ce qui se passe, il va faire ses recommandations, ceci va être révisé par la communauté et tout le processus est un processus d'amélioration continue. Et donc, ce processus nous a dit qu'il faut se rassurer du fait que les individus aient un accès plus simple, qu'il faut donc garantir que tout le monde peut nous rejoindre en tant qu'individu. Mais le processus dû doit être conçu pour les régions. Et donc, certaines régions sont moins avancées dans cette voie que d'autres. Olivier, je crois qu'on a une question à distance. Oui, j'essayais de prendre mon tour à la fin pour avoir plusieurs questions, mais certaines des questions ont déjà été répondues parce que peut-être elles coïncidaient avec ce qu'on a discuté ici. Et donc, on a une question d'une personne du Pakistan qui demande si on a un ordre du jour, comme un agenda pour faire ceci, un comité consultatif pour y parvenir. Merci. Le renforcement de compétences est très important pour la sensibilisation et la formation interne. Donc, la sensibilisation et le fait de chercher de nouvelles structures à de l'art constamment. Je pense qu'on a 139 en ce moment, ou alors 140 structures à de l'art. Plus de 140. Très bien. Donc, ce n'est pas à chaque réunion, mais à chaque fois que je ferme les yeux, avec un clin d'œil, on a de nouvelles structures qui s'adhèrent à l'organisation. Donc, on a plus de 140 structures à de large autour du monde, mais l'idée est d'avoir une structure à de large par pays. On a beaucoup de pays où on n'a pas de structure à de large en ce moment, et il y en a d'autres pays où on a plusieurs structures à de large. Donc, oui, la sensibilisation est très importante, et on a des secteurs dans le monde où on n'est pas très couvert. Et donc, on vous encourage à trouver des ALS, à les fonder dans ces régions du monde. L'Enrich, ou la formation interne, est aussi très importante parce que peut-être, je pense, c'est là où vous allez savoir comment vous servir d'Internet. Rejoindre ICANN n'est pas facile. Vous êtes ici pour essayer d'apprendre ce qu'est ICANN. Et c'est bien de devoir expliquer ceci, mais peut-être pour vous, ce n'est pas simple d'absorber tout ceci dans une réunion. Et donc, la formation interne est conçue pour apprendre aux membres à de large comment fonctionne ICANN, comment fonctionne la structure à de large, comment fonctionne le modèle de multiples parties prenantes, comme les gouvernements, les utilisateurs, comment ils travaillent ensemble. Donc, c'est très difficile de comprendre. Il faut le vivre. Il faut y être pour voir comment ça marche. Et donc, vous allez voir à ce moment qu'on a beaucoup de délégués de la CRALO et ils sont venus en tant que représentants de leur structure à de large pour apprendre. Ils ont des sessions de renforcement de compétences tous les jours et donc c'est la première partie de leur session. Et ils ont d'autres sessions qui se centrent sur de large, sur comment travailler mieux pour discuter de leurs problèmes, donner leurs commentaires, leurs opinions, pour savoir comment la RALO devrait être présidée. Donc, c'est très important. On demande toujours au département de finances de l'argent. On a besoin de fonds pour que les gens puissent voyager, se voir en face à face, parce que l'Internet est merveilleux et ça a rassemblé, ça a communiqué les gens. Mais enfin, on n'est qu'une adresse email à la fin de la journée. Ah oui, cette personne est une adresse email, mais en fait, on fait un appel et l'email se transforme en une voix. Et puis à la fin du processus, c'est très important de se voir le visage, de se dire, il s'agit d'une personne, c'est un être humain, ce n'est pas qu'un email ou une voix, c'est une personne. Et je voudrais Vous parlez non seulement des problèmes ICANN, et je voudrais parler à cette personne aussi, du jour à jour, de sa femme, de ses enfants, de ses hobbies. Donc c'est très important de maintenir l'aspect humain des personnes en même temps, parce que ceci génère plus d'efficacité et plus de compréhension entre les gens lorsqu'ils ont des points de vue différents sur un sujet, etc. J'ai pris beaucoup de temps pour répondre à cette question, mais ceci est une opinion que j'ai pour sûr. Olivia, il a encore certaines minutes, mais on devrait savoir quand est-ce qu'il doit partir. Donc, on va vous laisser poser quelques questions. On a deux questions de plus. Bien, alors on a Fatima d'abord. Alors, Fatima va poser sa question en espagnol. Donc, j'ai un petit commentaire. Quand quelqu'un parle espagnol, vous avez 10 secondes pour mettre vos écouteurs. Allez-y, voilà, les 10 secondes sont passées. Bien, merci. J'ai un petit commentaire par rapport à la question d'Humberto. Chaque RALO suit un mémorandum de compréhension avec ICANN et chaque RALO est autonome pour décider comment ils vont gérer leur propre RALO, si les utilisateurs finaux ont le droit de vote ou pas. Et certains points que les RALO mentionnent est que lorsqu'on permet le vote individuel à chaque utilisateur, finalement, ceci devient un seul vote. Et c'est difficile d'avoir beaucoup d'utilisateurs individuels pour qui se mettent d'accord pour un seul vote. Et donc, on perd le sens de représentation. Voilà, c'est mon commentaire. Et maintenant, pour Olivier, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des politiques de qualification pour savoir comment on va mener la période de commentaires? On va voir. On a un processus au sein d'AdLarge pour voir comment le commentaire public devrait être fait. Et donc, si on commence au fond, l'ALS va lever la main et dire on considère qu'on devrait avoir un commentaire à ce sujet. Donc, ceci va être discuté au sein du RALO. Et si le RALO atteint le consensus, ils vont le discuter avec les autres RALO. Et il s'agit ici d'un processus un peu informel. Donc, si la majorité des RALO est d'accord, les RALO vont alors dire, très bien, on va le passer à la LAC. Et si l'ALS décide de défendre cette idée, ils vont avoir une déclaration préliminaire qu'ils vont poster sur le wiki. Et les gens vont faire des commentaires à ce sujet. Et vous allez voir à partir des commentaires, si les gens sont d'accord avec ceci ou pas. On a vu parfois des débats entre des gens qui pensaient d'une manière et les autres ALS qui visaient à faire d'autres choses. Et puisqu'on cherchait à trouver le consensus, c'était très difficile. Si on se divise complètement, si on est moitié-moitié, on a deux options. Soit on envoie la déclaration en tant que point de vue de la minorité et ce sera qu'un appendice à la fin d'une déclaration. Mais le problème, c'est que le conseil d'administration qui reçoit ceci est un peu confondu par ceci. Alors, ils nous disent, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites oui et puis vous dites non. Donc, si c'est vraiment une situation où on a 50% dans chacune des opinions, on n'atteint pas le consensus. Et puis, en tant que président du comité consultatif AdLarge, je ne serai pas à l'aise disant oui, on va envoyer cette déclaration. Parce que chaque déclaration que l'on écrit est puis votée par le comité consultatif AdLarge. Et c'est vraiment un grand embarras pour moi de présenter une résolution et que les gens votent contre ceci. Ce n'est pas bien que les autres n'entendent pas ce que vous avez à dire. Donc, Heidi, je pense, va savoir ceci, mais il me semble qu'on n'a jamais eu de déclaration écrite qui n'a pas été approuvée parce que les gens ont voté contre ceci. Alors, pas durant ma présence. OK, alors c'est arrivé, mais pas lorsque j'étais là. Donc, voilà, c'est ça le processus. Ce n'est pas une politique qui soit écrite. Et je crois qu'on devrait l'écrire. On a des discussions qui ont été incluses dans le guide du débutant pour participer sur Adlarge. C'est ce document-là. Est-ce qu'on l'a traduit? On l'a traduit en français, espagnol et en anglais, bien sûr. Donc, j'ai une version en anglais et une version en espagnol ici. Mais il a déjà été posté aussi sur le site du CAN et vous pouvez le trouver en même temps dans la salle des débutants, des nouveaux arrivants. Alors, on continue. Bonjour, je suis José Salgueiro du Venezuela. J'avais un doute hier et on ne m'a pas répondu à ma question proprement, donc je voulais vous la reposer en tant que président d'ALAC. On a entendu dire qu'ALAC vise à avoir la participation et que les RALO visent à avoir plus de participation. Et de toute façon, je ne comprends pas pourquoi l'organisation a le pouvoir de contrôler ou de opposer un veto sur les décisions des RALO, si vous cherchez à avoir des gens qui participent. Bien, alors la raison pour laquelle on a plusieurs couches, soi-disant, dans le système, est parce que, comme j'ai déjà dit, lors de l'élection de 2002-2003, le processus a été capturé. Dans une organisation comme celle-ci, s'ouvrir aux apports des utilisateurs Internet dans tout le monde, on pourrait se voir capturer. Alors, il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui s'organisent pour orienter le processus soit dans une direction ou dans l'autre. Donc, la façon dont on structure ceci est qu'on passe d'une structure à large, au RALO, à la LAC, et ceci nous donne plusieurs couches de sécurité pour voir que les points ne vont pas passer dans le processus, mais qui devront être votés dessus pour voir s'il y a consensus à ce sujet ou pas. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'un comité qui va opposer un veto aux décisions, mais il s'agit d'un comité qui a des appels ouverts. Vous pouvez participer, entendre les appels. Vous pourrez faire vos commentaires dessus et faire vos apports. Mais en fait, le comité exécutif existe pour voir qu'est-ce qu'on devrait faire jour à jour. Et donc, les appels à l'AC ne se font qu'une fois par mois. Et on voit que au sein de la CAN, tout se passe très vite et donc on doit suivre tout ceci de près. Alors, durant ma présidence, je pense qu'on n'a jamais opposé un veto à rien, sauf lorsqu'on a vu des propositions qui pouvaient faire porter atteinte aux structures larges. Mais j'aime bien penser que le comité exécutif d'ALAC n'est qu'un canal pour canaliser les apports jusqu'au processus. Peut-être parfois, on aurait besoin de modifier certains points. C'est un processus très difficile de se faire entendre, mais en même temps, si vous parlez trop, c'est ce que je fais maintenant en ce moment, mais les gens n'écoutent plus. Donc, on a 10 manières de dire quelque chose à une personne et parfois la personne va vous dire « Je ne veux plus rien savoir, ne me le dis pas. » Et peut-être, si on parle moins, on a plus de chances d'être écouté. Donc, il faut viser à ceci. Pardon, on doit finir ici. C'était merveilleux. Vous êtes très engagé, mais il faut respecter les autres présentateurs, les autres orateurs et passer à l'orateur suivant. Alors, merci beaucoup, Olivier. Merci, Janice, et merci à vous tous. J'ai un dernier commentaire à faire. C'est que vu qu'on a tellement de structures à de large ici, vous pouvez parler aux membres des structures à de large et apprendre davantage sur ce qu'est d'être une structure à de large et comment vous pouvez participer. Vous pouvez vous servir de ces apports personne à personne. Et Janice est fantastique dans ce type d'échange. Je vais faire de mon mieux. Gabi, je sais que tu avais une question. Tu peux l'écrire et je la passerai à Olivier. Donc, si vous avez d'autres questions pour Olivier ou pour les gens d'Acte Large, Heidi, membre de notre équipe, passez-les chercher. Vous pouvez me les envoyer par email ou sur un bout de papier et je vais les passer. En ce moment, puisqu'il est 8h15, je sais que l'ACRA LO commence. Alors, Olivier veut des brochures On va les passer à tout le monde, si possible. Pour ceux qui vont à la réunion de la Kralo, je sais que vous avez 2 minutes avant que la réunion commence à 8h30. Heidi veut parler. Oui, oui, merci Janice, c'est Heidi qui parle. Pour les gens de la Kralo, la prochaine réunion est la réunion d'ALAC avec le conseil d'administration. Il commence à 8h30, donc vous avez 15 minutes dans la passe C. Bien, donc les gens de la Kralo, si vous voulez partir, on peut donner du temps à André pour qu'il se présente, pour qu'il se prépare pour sa présentation. J'ai une annonce à faire. La présentation qu'on va faire avec Rodrigo, parfois, pour ce qui est de ses contenus, c'est moi qui les fait, sont les mêmes contenus que je n'ai pas pu présenter lors de la réunion de la Kralo hier. Donc, s'il y a des gens de la Kralo qui veulent rester, les contenus de la présentation qui suit est très similaire à celui que j'allais faire hier lors de la réunion de la Kralo. Merci. Janice, les participants à distance voudraient aussi partager avec qu'on partage avec eux la présentation d'Olivier.
Okay, my peeps. Hello back again to our remote.
Bien, bonjour à nos participants à distance. Et messieurs, dames les boursiers, nous allons reprendre. Donc, s'il vous plaît, approchez-vous, concentrez-vous. Donc, venez, approchez-vous, asseyez-vous. La deuxième partie de notre cours aujourd'hui, nous allons avoir une espèce d'approche très personnelle et très professionnelle de conversation avec deux représentants de la région d'Amérique latine qui vont nous donner un petit peu leur opinion de leur optique du leadership d'ICANN et du leadership régional dans la communauté, ce qui arrive au niveau de la région latino-américaine. Alors, et ensuite, donc Andrés, vous avez la parole. Hein? Présentez-vous. Vous pouvez vous déplacer, vous lever. Et ensuite, il y aura peut-être des questions des participants. Il n'y a pas de présentation avec des diapos. Donc, on y va. Bien. Les plus vieux d'abord. Donc, Rodrigo, tu as la parole. Bonjour à tous. Je vais faire ça en espagnol, si ça ne vous dérange pas. Donc, ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, s'il vous plaît, mettez vos écouteurs. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Rodrigo de la Parra. Je suis le vice-président de l'ICANN pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Si vous voulez, je vais laisser André se présenter comme ça. Et ensuite, on continue nos présentations. Donc, je suis André Piazza. Bonjour à tous. Moi aussi, je vais parler en espagnol. Je suis le responsable de relations externes de la CNIC, qui est le registre régional d'adresse d'Internet de l'Amérique latine et des Caraïbes. Des Caraïbes, pas de l'ensemble des Caraïbes, mais du Caraïbe tel qu'on le considère au sein d'ICANN, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés dans nos Caraïbes. Bien, alors, nous allons essayer de travailler de manière dynamique pour encourager l'échange. Et donc, nous avons décidé avec Andrés que chacun allait pouvoir parler pendant 5 minutes et qu'ensuite, on allait donner la parole au public. Donc, d'abord, je voudrais souligner le travail de Janie à la tête de ce programme de boursier depuis de nombreuses années déjà. En réalité, c'est un grand orgueil de l'avoir au sein d'ICANN. Je dois reconnaître que c'est mon groupe favori pour deux raisons. Pour Janice et pour le travail qu'elle fait, toute l'énergie. Et comme on dit, nous les Latins, et le bon feeling que Janice nous transmet. Même si elle nous oblige à nous lever à 7 heures du matin, mais bon. Donc je reconnais vraiment que Janice fait du très bon travail. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est mon groupe favori au sein d'ICANN, c'est parce que moi aussi, j'étais un boursier. J'ai commencé, donc, j'étais un fellow, un boursier lors de la première génération de boursiers qui a eu lieu en ICANN en 2007. Je viens de San Juan, Porto Rico. Et je dois vous dire que j'ai de la chance, parce que, et comme vous, vous avez de la chance aussi. Moi, j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment le fait de participer à une réunion d'ICANN pour la première fois. Et ça peut être quelque chose de très, très compliqué. C'est naviguer dans un océan de sigles et le fait d'écouter des gens qui parlent, hein, qui portent différentes casquettes, comme disait Olivier. Mais si on est un boursier, on nous aide, on nous installe confortablement à 7 heures du matin avec un petit café. On permet aux gens de se présenter, de parler ce qu'ils font dans leur groupe. Hein, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, hein, et pour les gens, lorsqu'on a une première, lorsqu'on rentre, hein, lorsqu'on est nouveau dans ICANN. Hein, donc c'est pour ça que c'est mon groupe favori aujourd'hui encore. Hein. Bien, je vais aussi vous parler brièvement, en général, de ce que fait une unité au sein d'ICANN, ce que nous appelons société globale ou partenariat global. Et ensuite, nous allons parler de la réunion que nous avons eue dans cette grande réunion d'ICANN à Costa Rica. Et je vous parlerai des activités régionales qui sont sous ma responsabilité, bien sûr. Et ensuite, je donnerai la parole à Andrés. Donc, cette unité de partenariat global ou mondial, ici, on a des collègues, notre collègue d'Afrique, par exemple, qui est parti, mais bon, on a d'autres collègues comme Assave qui est là derrière, qui est chargé de la région des îles du Pacifique. Et puis, nous avons ces liaisons régionales, hein, qui existent aussi dans d'autres régions du monde. Et notre mission, c'est justement d'essayer de rapprocher ICANN, de chaque région et essayer d'encourager les régions aussi à s'approcher d'ICANN. En réalité, ce n'est pas une fonction verticale. Et vous avez sûrement travaillé avec d'autres groupes comme les GNCO, l'NCO. Notre fonction est un peu plus horizontale, dans le sens que nous essayons de nous approcher de tous les acteurs de ce depuis le gouvernement, la société civile qui peut jouer un rôle important dans At Large, et les communautés d'affaires commerciales, tout ça, toutes les personnes qui peuvent être donc concernées par ce que nous faisons. Un exemple de nos fonctions, Olivier disait qu'il y avait des personnes qui se chargeaient de faire une diligence ou une analyse des demandes, hein, qui sont présentées pour constituer des structures ALS dans At Large. Et c'est nous, les liaisons, qui nous occupons de ça, liaisons au niveau régional, entre autres fonctions, bien sûr. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques qui ont évolué, hein, au sein d'ICANN. Lorsque ICANN, ce système de global n'existait pas, et maintenant il existe, et il est très fort, il est très solide, il est de plus en plus solide. On crée des vice-présidences régionales pour donner justement à l'organisation une approche plus internationale. La communauté, et notamment le directoire d'ICANN, a montré et sa préoccupation. Il veut que ICANN devienne de plus en plus international. C'est pour ça que l'on a créé cette tendance. On a cette tendance à créer des bureaux régionaux pour donner le plus haut niveau possible, hein, un rôle le plus important possible à ces présidents et vice-présidents. Donc, c'est un petit peu ce que nous faisons dans notre partenariat global. Et je voulais vous dire que cela a été une réunion exceptionnelle. Je le dis non seulement parce que cette réunion a lieu dans notre région, mais aussi parce que le nombre de participants a atteint un record. Les réunions qui ont eu le plus de succès dans les réunions d'ICANN ont été celles de San Francisco, puis celles de Paris, mais à l'exception de celles des États-Unis et de Paris, c'est la réunion qui attire le plus de participants, donc celle de Costa Rica, la réunion où on a le plus de participants dans l'histoire d'ICANN. Et je pense que cela vraiment nous montre, hein, doit nous donner un certain orgueil. Ça nous montre qu'on va dans le bon sens pour internationaliser les activités d'ICANN, hein, et faire participer la société civile et les gouvernements. On a une participation des gouvernements auprès du GAC qui a aussi atteint un record. On a eu une réunion ministérielle un jour avant le début de la réunion ici, convoquée par le gouvernement local. Il y a aussi eu une très bonne participation qui vise à faire participer davantage les gouvernements au sein du GAC, dans ICANN. Il y a eu aussi un atelier qui a abordé le CCTLD, le LAC-TLD, qui est l'organisation régionale des TLD dans la région. En fait, ils organisent des ateliers. Cette fois-ci, ils ont réuni, ils se sont réunis pour cette réunion d'ICANN. Et de nouveau, on a eu une participation record dans ce groupe. Et bien sûr, nous avons aussi une réunion très importante qui est l'Assemblée générale de l'ACRALO, qui est la structure d'Amérique latine au niveau régional, qui a eu l'occasion pendant toute la semaine de se réunir. Et donc, je suis très heureux de voir les participants de l'ACRALO qui sont ici présents. Et cette réunion, donc, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui appartiennent aux ALS. Il y a un grand nombre d'ALS qui sont représentés ici, en tout cas. Voilà, je crois que ce serait un petit peu une présentation, une introduction. Et bien sûr, je serais ravie d'avoir un échange avec les personnes qui le souhaitent. Merci beaucoup, Rodrigo. Bien. Je ne vais pas vous dire que c'est mon groupe préféré, moi aussi, puisque Rodrigo l'a déjà dit. Moi, j'ai participé pendant 5 ans à la communauté de l'Atlarge et c'est un petit peu difficile que vous me croyez si je vous dis ça. Mais de toute façon, même si je n'ai jamais été boursier, ma première réunion a été en 2007 à San Juan. C'est là que j'ai connu Rodrigo, d'ailleurs. Et avant cela, mon premier contact avec l'ICANN était dans le domaine du partenariat global, puisque c'était à cette époque-là que Pablo, qui était la personne qui a précédé Rodrigo dans ce domaine et qui a encouragé la création des RALO au sein d'ICANN dans des réunions préalables à San Juan et préalable à la réunion San Juan et à San Juan, on a créé les piliers de ces lacs RALO qui a été le premier RALO. Donc, je pense que là, on a pu vraiment voir comment ICANN essayait de s'internationaliser. Un an était passé après le sommet mondial de l'information. Et c'est là cette expérience a vraiment permis de nous permettre de mieux fonctionner. Elle était très enrichissante. Et à partir de cette première période, je suis rentrée dans le monde de l'ICANN, dans ce monde passionnant que forme l'ICANN. Et ma première réunion, en plus, m'a permis de connaître le président du directeur de l'ICANN, qui était Windsurf à cette époque-là, Windsurf. Et il a fini son mandat à ce moment-là. Et après avoir connu donc à Vince, et après avoir participé à de nombreuses réunions au cours de toutes ces années, je dois dire que cette réunion est quand même celle qui reste gravée dans ma mémoire. Et je ne peux pas l'oublier. Je ne l'oublierai jamais. Et je crois que j'en parlerai à mes enfants et à mes petits-enfants. Je leur dirai que j'ai connu à Vince. Donc, c'était difficile de ne pas être passionné par ce monde, le monde de l'ICANN à cette époque-là. Pourtant, même si je n'ai jamais été boursier, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été très en contact avec le groupe des boursiers. C'est un groupe qui m'a toujours paru très spécial, surtout parce que ce que ICANN faisait, certains sont des membres du gouvernement, d'autres des membres académiques, d'autres. C'était un groupe qui était vraiment diversifié, avec des gens qui étaient très bien formés, qui était tout à fait nouveau, mais qui apprenait, on apprenait un tas de choses en entrant en contact avec eux. Donc, et en plus, je pense que je ne peux pas faire une présentation face au programme de boursiers et qui soit unidirectionnel. Je pense qu'il faut parler, hein. Il faut qu'il y ait un dialogue, hein, les uns avec les autres. Et c'est pour ça que maintenant, je vous propose de prendre la parole. Avant cela, je vais vous parler un petit peu de mon organisation quand même. J'ai travaillé pendant 5 ans à l'ACRALO. J'étais le premier président de l'ACRALO. Rodrigo me dit, regarde un peu le désordre que tu as mis dans tout ça. Il a raison. J'ai laissé un petit peu pas mal de choses en plan. Mais bon, l'ACNIC, c'est une organisation, c'est un écosystème. J'appartiens à l'équipe, aux équipes de cette organisation. Parfois, je représente cette organisation. Je parle au nom de cette organisation. Donc, il n'y a pas vraiment un conflit d'intérêts, mais j'avais du mal à continuer à participer dans ces deux organisations. Donc, j'appartiens au monde d'ICANN de manière collatérale. Et avec le secteur de Rodrigue, on se retrouve souvent dans des forums intergouvernementaux. On est les observateurs de l'ICANN et on fait un travail d'équipe tous les deux. On communique au gouvernement et modèle. On parle du modèle multipartie prenante au gouvernement qui parfois ignore ce modèle. Donc je dis cela en pensant au discours de Laura Tvinchila, le président de Costa Rica d'hier, quand elle a... Nous, on essaye de montrer au gouvernement comment fonctionne le modèle multipartie prenante et ses avantages. Et maintenant, c'est eux qui nous expliquent comment ça marche. Donc, c'est vraiment un changement très intéressant. Cette réunion va aussi marquer un tournant dans ce sens. Je voulais aussi vous dire, vous commentez les directions IP et ce monde de processus de développement de direction d'adresse IP. Et pour les gens qui assistent aux réunions d'ICANN, c'est quelque chose d'inconnu très souvent. Est-ce que quelqu'un appartient au monde de l'ITF, du RILS, quelque chose donc lié à la politique des adresses IP? Personne n'a levé la main. En général, nous, ICANN est une corporation qui travaillent sur les noms et les numéros de domaine. Les numéros, le processus de développement de politique de numéros se fait, mais pas ici. Il y a une communauté, il y a un processus ascendant, mais ça ne se fait pas dans ces réunions, ce qui fait que très souvent, les organisations qui travaillent dans ce domaine considèrent cela comme un manque de connexion. Et c'est ce qui m'a amené à demander à Janice la possibilité de participer ici à cette réunion. Nous avons un processus de développement de politique avec un organisme différent, celui d'ICANN, qui finalement conclut dans les organisations de soutien, les ASSO, dans cette même structure ascendante. Donc les registres nationaux ont été créés avec le temps. Ça peut-être paraître quelque chose de descendant comme système, mais même si en Amérique latine, on a un registre que depuis 10 ans, et il y a des adresses IP depuis 40 ans, ARIN a signé pour toute notre région les adresses IP. Et même là, il y avait un processus de politique qui était plutôt ascendant. Et aujourd'hui, la CNIC, qui a donc les adresses IPv4, IPv6 pour la région qui assigne ces adresses à l'ISP le plus grand du Mexique et du Brésil et le petit fournisseur d'une communauté de l'Amazon et des Caraïbes et pour les fournisseurs d'Internet et les autres usagers comme les gouvernements, les associations, etc. Toutes ces adresses viennent à travers de la CNIC. Ou venaient au préalable, étaient assignés à travers ATNIC. Et les règles qu'on utilise, les politiques qui sont définies pour savoir quand est-ce qu'on doit assigner, qu'est-ce qu'on doit assigner, il y a un principe d'assignation par besoin d'abord. Toutes ces règles d'assignation d'adresses IP, surtout dans le processus de la fin du protocole IPv4, dont je peux vous parler ensuite, ça vous intéresse et que vous voulez qu'on en parle. Donc, il faut donc voir comment on administre le dernier ensemble d'adresses IP du protocole IPv4 qui reste. Donc, tout cela se définit au niveau régional. L'ACNIC est une organisation composée de membres, sans but lucratif, bien sûr. 2200 membres. Nous avons actuellement 2200 membres avec des ISP très importantes et des organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux. Et c'est eux qui ont le droit de définir la politique. Et puis, il y a un forum de politique qui est une liste de courriers, de mails horizontales avec des personnes qui appartiennent à la communauté, qui sont volontaires, comme les membres des AS et des SEO d'ICANN, qui se réunissent deux fois par an dans les deux réunions de l'ATNIC. Et ce forum définit donc par consensus les politiques. Et même comme ça, le forum de politique n'est pas fermé aux membres. Les membres de l'ACNIC sont... il y a plus de 2000 organisations et pourtant le forum de politique est ouvert à tous ceux qui sont intéressés, qui veulent participer. On fonctionne dans les trois langues officielles de la région, portugais, espagnol et anglais. Et on a une dynamique très particulière avec des thèmes techniques que seuls les techniciens peuvent comprendre en réalité. Mais c'est un secteur très ouvert et qui est vraiment... c'est surprenant la façon dont ce secteur fonctionne. Cette dynamique du consensus me surprend, hein, moi-même. Lors du dernier forum auquel j'ai participé, quelqu'un a parlé d'une politique. Cette personne était un candidat pour un autre poste. Et lorsque cette personne a parlé de cette politique, on lui a fait... une correction au niveau technique, on lui a dit tu n'as pas tenu compte de cela, et cette personne automatiquement a perçu son erreur, s'est rendu compte de son erreur, a retiré la politique et s'est assise. Hein. De nouveau, j'aimerais voir ce type d'attitude au GNSO ou à large. Hein. Ce n'est pas si courant que ça, cette attitude-là. Je ne veux pas critiquer le processus de développement de politique d'ICANN, non, loin de là, mais moi je suis avocat, et des fois les ingénieurs hein, manquent un petit peu de bonne foi, disons. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vois qu'il me semble qu'il y en a. Donc, si vous voulez, on peut commencer par les questions. Je voudrais dire rapidement, hein, Gabi. Et j'essaie de prendre des notes pour les personnes qui sont à distance sur ce que me dit l'interprète et j'ai du mal à suivre. Donc, pour une question de compréhension pour les interprètes, je voulais les féliciter pour leur travail et demander aux personnes de ne pas parler trop vite. Merci. Oui, Janice. Oui, c'est vrai, Janice, excuse-moi, je parle vite. Je sais que les interprètes sont argentines, donc elles comprennent très bien mon espagnol rapide. C'est pour ça que j'en profite, disons. Bien, hola Andrés, Rodrigo, j'ai une question à vous poser à chacun d'entre vous. Je parle en espagnol puisque c'est plus facile pour tous ceux qui ont déjà leurs écouteurs sur la tête. Donc la question que je voulais te poser, Andrés, c'est est-ce que tu pourrais nous parler de la situation en Amérique latine et comment va fonctionner la migration de l'IPv4 à l'IPv6? Je sais qu'on fait beaucoup d'efforts actuellement. Pour encourager cette migration. Mais quelle est la situation dans les pays? Est-ce que tu peux nous parler de cette situation? Et pour Rodrigo, la question est la suivante. Je voudrais savoir quel type de membres appartiennent à cette unité de société globale et de notre point de vue, du point de vue des boursiers, est-ce qu'on peut collaborer ou participer, intégrer cette société, appartenir à cette société? Bien. Alors, une petite plaisanterie ici à Rodrigo, j'en profite qu'il est plus vieux que moi. Mais de toute façon, ça ne se voit pas, non? Bien. En une minute, c'est difficile de répondre et d'expliquer la situation IPv4, IPv6, la migration d'un protocole à l'autre. Notre organisation travaille sur ce point depuis l'année 2003 et on essaye d'encourager une prise de conscience, hein, parce qu'on avait l'impression que les adresses IP n'allaient jamais s'épuiser. Et maintenant, vu la croissance spectaculaire de l'Internet, on se rend compte que ces ressources ont une fin, sont épuisées. Donc, l'IPv4 a été créé, l'IPv6 a été créé depuis plusieurs années, mais la transition, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas de migration, je parle de transition. Les adresses IPv4 vont continuer à exister sur le réseau et elles ne sont peut-être pas directement compatibles avec les IPv6, mais il y a des moyens de les compatibiliser. Donc, on va assigner des adresses IPv6. Lorsque les adresses IPv4 seront épuisées, il y a déjà des réseaux qui opèrent avec l'IPv6, mais l'IPv4 va continuer à fonctionner sur d'autres réseaux dans au moins une dizaine d'années, pendant au moins une dizaine d'années. Donc, ça va faire une transition. C'est bon qu'il y ait une transition et non pas une migration comme concept même pour les gens qui ne sont pas des techniciens. Il est important de savoir que ce processus va être un processus lent et qui va être donc relativement... Ce sera une évolution, pas un changement brusque. Et c'est de ça qu'il s'agit finalement. Les nouveaux protocoles, ces protocoles sont nouveaux, vont permettre d'avoir de nouvelles adresses, mais ce ne sera pas un changement brusque. La situation du monde, Yana, vous connaissez Yana, je crois, Yana a une réserve centrale d'adresses IPv6. La réserve d'adresses IPv4 s'est épuisée en février 2011. Il y a eu une cérémonie à Miami avec les directeurs des 5 registres régionaux et d'ICANN et de Yana. Au cours de cette cérémonie, on a assigné les dernières portions d'espace IPv4 aux registres régionaux et d'adresses IP. On savait que cela allait avoir lieu. Et lorsque... Avant cela, ce qui avait eu lieu, c'est qu'il y avait eu une politique globale qui avait été mise en œuvre d'assignation d'adresses IPv4 et les 5 forums des 5 registres régionaux se mettent d'accord sur un même texte pour une même politique. C'est un consensus dans 5 régions, Amérique latine, on a 800 participants. Une fois qu'on est arrivé à se mettre d'accord, on a décidé que les dernières unités d'espace, les 5 dernières la série d'adresses IP qui restait serait assignée entre les différentes régions. Ça a été fait au mois de février de l'année dernière, une pour chaque registre régional. Ça fait que la situation actuelle est maintenant différente selon la région dont on parle. Parce que, par exemple, dans l'Asie-Pacifique, quelques mois après cette assignation des dernières adresses IPv4, il n'y avait plus d'adresses IPv4. Et donc, l'Asie-Pacifique a la Chine, l'Inde, l'Europe orientale, les îles des Pacifiques, l'Australie et d'autres pays encore. Donc ça, c'est la région de cette région. C'est les pays qui forment cette région Asie-Pacifique. Ils ont épuisé leurs adresses. L'Amérique latine a une position un peu meilleure. Nous avons encore dans notre réserve des adresses pour que si on continue à signer l'IPv4 à ce rythme-là, on puisse encore avoir des adresses disponibles jusqu'au début de l'année 2014. Cependant, rien n'indique que cela ne puisse pas changer. Les prédictions se font au jour le jour. On regarde le nombre d'adresses qui restent et on met à jour les prédictions. Donc, si le rythme s'accélère, il est possible que notre espace d'adresses IPv4 sera aussi rapidement épuisé. IPv6 représente des défis très intéressants. Une grande partie des fournisseurs d'Internet de notre région... Je parlerai un peu davantage de notre région, mais on peut appliquer ce que je dis à toutes les régions, ont déjà des ressources IPv6 qui leur ont été assignées. Il y avait une politique qui permettait d'assigner des blocs d'adresses IPv4 et IPv6 aux membres, et donc la plupart des grandes... distributeurs ont des adresses disponibles. Cependant, il y a le problème de l'œuf et de la poule. Une chose, c'est d'avoir des adresses disponibles et l'autre chose, c'est que les réseaux soient montés directement avec le protocole IPv6. Le problème, c'est que ça demande un investissement. Ça veut dire que les réseaux doivent se développer. Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement. L'Amérique latine a une croissance très importante, mais il y a une dichotomie entre l'investissement et le NAT, c'est-à-dire les mêmes adresses servent à développer des réseaux. Et aujourd'hui, les carriers font quelque chose qui est un peu plus dangereux, qui est le carrier grade NAT. Ça veut dire qu'il faut une prise de conscience pour que l'on commence à investir dans des équipements qui supportent le protocole IPv6. Alors, on le fait avec d'autres organisations de la CNIC, ICANN le fait aussi. L'Internet Society, la société Internet, joue aussi un rôle très important dans ce domaine. Et le problème de l'œuf et de la poule dont je vous parlais, c'est que les fournisseurs de contenu vont être encouragés à créer des sites web. Et ce sont les sites Internet les plus visités. Bon, les fournisseurs de contenu sont les sites web les plus visités. Et ils vont être, lorsque les réseaux qui accèdent à eux vont avoir un IPv6, hein, ça va créer une incitation, ça va créer un stimulant pour les autres. Hein. Donc, on essaye de mettre en place des initiatives pour encourager l'utilisation du protocole IPv6. Mais aujourd'hui, l'utilisation d'IPv6 est inférieure par rapport à l'IPv4, mais cette utilisation augmente vraiment rapidement. Et donc, nous sommes très optimistes et nous pensons que l'IPv4 va s'achever, mais va s'épuiser, mais on aura un IPv6 solide. Donc, les gouvernements font un travail de sensibilisation, de prise de conscience dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'il est important de parler de cela ici. J'étais un petit peu long, peut-être. Excusez-moi. À propos de la participation qu'il peut y avoir dans le domaine des sociétés globales ou du partenariat global, je voulais te dire que c'est un domaine, c'est un secteur au sein des équipes d'ICANN qui s'appelle comme ça. On est un groupe de 5 personnes. Donc, et il y a des manières, des façons de nous associer. Nous sommes dans notre région, nous sommes en train de faire pas mal d'activités, de mettre en place pas mal de réunions, d'organiser des réunions, des activités. On s'invite mutuellement pour y participer, pour être présent à ces réunions et pour encourager donc la participation de tout le monde dans tous les sens. Donc, on serait ravis d'entrer en contact avec vous. Ça nous intéresse, oui. Et je pense que le seul danger, c'est qu'il y ait des gens comme Andrés qui fassent de nouveau un désastre comme il a fait à la Cralo, voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment l'esprit démocratique de notre organisation, donc il faut accepter ça.
Andrés, on va commencer avec toi et puis on continuera. Je vais parler en espagnol aussi. Merci, Andrés. Je suis Andrés du Costa Rica. Andrés Guanos. Et ma question est pour Andrés aussi. Et Winston Churchill disait que la démocratie est le pire système de gouvernement, sauf pour tous les autres. Et lorsqu'on voit un peu ce qu'était la première réunion d'ICANN, pour moi, le système du modèle multipartite, de multipartie prenante, on pourrait le définir autrement aussi. J'ai des expériences avec d'autres systèmes, un système pour le Creative Commons, l'OMPI pour la propriété intellectuelle, ceci appartient aux Nations Unies. Et donc, je voudrais savoir quelle a été votre expérience avec ce modèle de multiples parties prenantes. Ceci m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé que l'ouverture était très bonne. C'est même rafraîchissant presque de voir que tout le monde peut y accéder à tellement d'activités. Mais en fait, j'ai lu des fois qu'il s'agit d'un système qui peut être difficile de... difficile pour travailler, pour atteindre des buts. Ça pourrait être comme essayer de nager dans le miel. C'est une expression qu'on utilise au Costa Rica et c'est difficile à faire. Mais j'aime bien cette ouverture. Donc, je voudrais écouter vos opinions sur ce système selon vos expériences. Merci, Andrés, de ta question. Je crois qu'elle est très bonne et qu'elle est un peu dans la tête de tous ceux qui participent à l'ICANN. Je coïncide avec toi et avec certains Grecs qui disent que la démocratie n'est pas une forme parfaite de gouvernement. Mais je pense que c'est beaucoup mieux que n'importe quelle autre forme de gouvernement, surtout celles qui sont du haut vers le bas et qui n'encouragent pas la participation des acteurs. Je pense que pour les sujets de gouvernance en Internet, la seule façon d'adresser ces sujets de représentation de multiples parties prenantes, ce devrait être le seul modèle. C'est parce que l'Internet n'appartient à personne, à aucun pays, à aucun gouvernement, mais ça appartient à tous. Ce n'est pas non plus des utilisateurs ni des opérateurs. On a des ingénieurs qui conçoivent les protocoles, les techniciens, et tout le monde devrait avoir droit à une voix, à dire ce qu'il pense. Je pense que le modèle d'ICANN en particulier est un modèle qui a été conçu pour fonctionner, au moins formellement. Mais je crois que pour qu'il puisse montrer ses bénéfices, ses avantages à 100%, on devra garantir que les personnes qui soient sur la liste soient vraiment représentées. Donc, même si on a certains gouvernements qui participent du GAC, on a besoin d'avoir davantage de gouvernements. Même si on a des structures de portée au sein de l'ATLARGE, on devrait avoir davantage de structures qui vous représentent. On a des pays qui n'y sont même pas. Donc, certains sont plus évidents, les CCTLD y sont, les SIR, bien sûr, y sont tous les cinq, parce qu'ils ont d'autres fonctions opérationnelles. Je crois que la réflexion est de nous aider à vous représenter pour montrer le potentiel du modèle. Voilà, c'est ça mon opinion, ma réponse. Bon, je suis contente d'avoir tellement de questions. Je pourrais rester ici tout le temps que j'ai pour pouvoir les répondre. Je ne sais pas si la salle est disponible, mais je suis ravie de voir que vous avez des questions. Andrés, par rapport à ta question, je n'ai pas beaucoup plus à ajouter à ce que Rodrigo a dit. Rodrigo a parlé depuis son endroit, Kelican. Mais ta réflexion initiale lorsque tu as fait la question et en même temps avec ce que Rodrigo a répondu, ça se correspond avec un collègue que je lis depuis 5 ans à travers ses publications et je l'ai connu aujourd'hui. Et constamment, il m'apprend des sujets sur lesquels je ne travaille plus tellement, tels que les aspects juridiques de propriété intellectuelle, et je le retrouve ici dans ce programme de boursier. Et donc, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi de faire une exposition unilatérale, unidirectionnelle, mais en fait, seulement le dialogue pourrait être constructif en ce moment. Et voilà ce qu'on dit du modèle, en fait. On a toujours beaucoup de tensions avec certains acteurs, surtout avec des gouvernements, et cette année, on va maintenir une discussion dans l'Union internationale de télécommunications, l'ITU. Ils sont en train de maintenir ces discussions dans l'Assemblée de normalisation de l'ITU et le traité Wiki. Et je suis sûre que vous devriez avoir entendu parler de ceci dans d'autres réunions. Les gouvernements ont peut-être des aspirations ou qu'ils espéreront ou qu'ils croient qu'il ne s'agit pas du meilleur modèle pour l'Internet, mais à un moment donné, c'était presque unanime. Et la présidente du Costa Rica nous a dit que ce n'était pas tellement unanime comme idée. Et en Amérique, on dirait que le modèle de multiples parties prenantes est très bien vu en ce moment. Heureusement, ils voient bien ce qu'on a comme modèle et pas ce que les autres régions parfois peuvent avoir. On aura peut-être besoin de changer, de travailler sur un défi pour l'avenir, sur le modèle, et ce serait de trouver une façon de faire que les gouvernements se sentent plus inclus dans ce modèle. Et pour ce modèle qu'on peut perfectionner, bien sûr, on cherche à les faire sentir que ces apports sont utiles. Mais des utilisateurs, peut-être d'autres parties prenantes plus débiles, ne peuvent participer qu'ayant la possibilité de renforcement de compétences, de sensibilisation et des outils. Et on a avancé beaucoup par rapport à ce qu'était auparavant, mais on a toujours un défi pour continuer à travailler. Pardon, j'ai 2 questions des participants à distance. Je voudrais les lire. L'une est de Koshit du Pakistan qui demande ce qui se passe avec le coût interne pour l'infrastructure et s'il y aura des charges pour le, du fournisseur Internet. Et en deuxième lieu, je vais demander à Fatima de m'aider parce que c'est en espagnol. La deuxième est de Javier Palero pour Andrés et il demande comment on croit que la mise en place d'IPv6 et sa technologie pourrait se coordonner avec les mécanismes de contrôle que l'on pose sur le réseau, tels que les blocages DNS, les contrôles de trafic pour protéger copyright, etc. En premier lieu, on parlait des coûts de l'infrastructure et comment les utilisateurs peuvent... C'était ça la question, non? Comment ils pouvaient travailler avec l'IPv6 et l'IPv4? En fait, ceci n'appartient pas à la gouvernance Internet, mais la gouvernance Internet peut faire des apports sur ceci, parce que l'infrastructure... En fait, on a des initiatives pour que les coûts d'accès soient à chaque fois mineurs et que ce soit plus rapide et que les différentes communautés qui ont moins d'accès aujourd'hui puissent avoir plus accès. Et donc, on a des investissements de beaucoup d'États en des réseaux de fibre optique, en des câbles à travers l'océan, des points de change de trafic. Et vu que le réseau grandit, ceci nous donne la possibilité pour que le secteur privé et les carriers soient inclus. C'est toujours un thème qui est central pour nous. On travaille beaucoup sur cette expérience. Vous devez voir les infrastructures, la création de des nouveaux points d'échange de trafic avec les groupes qui travaillent dessus. En Amérique latine, on a un dialogue de haut débit, comme on l'appelle au niveau gouvernemental, et on collabore, nous, là-dedans. Et on croit que toutes les initiatives, soit publiques, soit privées, que l'on puisse faire pour améliorer les aspects structurels, devraient venir de ce potentiel qu'on a. Je suis très optimiste à travers de, par rapport à ce que je vois. Et dans ma région, tout le monde a ceci dans son ordre du jour. Et ceci correspond à... On a tellement de réunions qu'on devrait se cloner pour pouvoir y être à tous. C'est le modèle de multiples parties prenantes. Et les personnes qui sont là-dessus travaillent sur ce sujet aussi. Et on n'a pas de discussion globale de politique à ce sujet au sein des organisations telles qu'ICANN. On a des discussions sur sécurité et stabilité, l'IETF. Mais on n'a pas un endroit où l'on discute comment on va créer l'étape suivante. Ceci se passe hors de l'organisation, mais c'est aussi une partie du modèle. Et par rapport à la question de Javier, c'est un grand ami d'Argentine que je n'ai pas vu en très longtemps. Et en fait, on n'a pas une manière d'interaction entre ces mécanismes de filtrage de DNS et notre schéma ou notre modèle. En fait, je ne vais pas demander à Rodrigo de participer ici parce que le LACNIC ne s'est pas prononcé sur ce sujet. Le LACNIC a publié une déclaration parce qu'ils étaient préoccupés par les initiatives SOPA, PIPA, ACTA, etc. Tout, en fait, tout ce qui porte sur le filtrage de DNS ou n'importe quoi qui puisse porter atteinte à la liberté des réseaux. Et donc, en fait, on n'a pas de configuration possible. N'importe quel mécanisme qui présente ce type de technique affecte la liberté qu'on connaît. Donc, ces mécanismes ne devraient pas exister. On doit les défendre. Et en fait, c'est des attitudes plus modérées que celles des activistes, mais il s'agit ici d'une position de l'organisation. Tellement, et à tel point, que comme on voit tout le temps ce type d'initiative, Hugo Chavez apparaît partout dans la télé et parle de ceci. Si on n'a pas d'autres questions, je veux profiter. Ah, d'accord, on a d'autres questions. En fait, on a d'autres questions, mais je veux être consciente du fait que les traducteurs n'auront pas de pause avant que le GAC commence à 9h45. Ils ont très bien travaillé ce matin et je veux être sûre qu'ils puissent faire une pause, prendre un café. Alors, on va dire que si ça ne vous gêne pas, on continue à 5 minutes de plus et puis on fera la pause. Alors, on va faire ceci vite fait. Et si on est en retard, si on n'arrive pas à les répondre en 5 minutes, je vais prendre vos questions par écrit et les retransmettre à Andrés et Rodrigo. Je suis Alejandro Moscol du Pérou. J'ai deux questions très courtes, l'une pour Andrés, l'autre pour Rodrigo. La question pour Andrés est pour le cas de l'assignation des numéros racines pour les pays. Est-ce qu'on fait ceci selon la demande des pays ou alors est-ce qu'on a des quantités prédéterminées pour chaque pays selon son économie? Et pour Rodrigo, je voudrais savoir quelle est la situation de la participation au syndicat des groupes qui ont été défavorisés dans la région de latino-américaine, telle que la région andine, ou les groupes tels que les Mayas ou les Aztèques. Comment est-ce qu'ils participent au sein des structures NICAN? Je vais profiter pour répondre à ta question. D'habitude, dans les processus NICAN, on essaie de considérer les sociétés avec des besoins spéciaux. Et d'emblée, ce programme est applicable à tous ces représentants ou personnes qui viennent du monde qui est en voie de développement. Donc, il ne s'agit pas d'un programme qui s'applique au monde développé. Pour d'autres types de politiques, on considère aussi. Par exemple, pour le programme des nouveaux GTLD, on a une section spéciale qui est le soutien pour les candidats qui soient intéressés à participer, qui viennent des communautés avec des besoins en même temps, sans spécifier la région, c'est général. Et voilà la vision d'ICAN. Ce programme des numéros génériques a été autorisé un capital de 2 millions de dollars comme première assignation pour la gestion des demandes. On a 47 000 dollars pour ces communautés et on a des soutiens non financiers pour la consultation, etc. Et tout ceci a été encouragé non seulement au syndicat, mais aussi pour que la communauté même puisse participer et aider ces candidats. Donc, ceci est toujours présent pour nous, dans notre esprit. Si tu fais attention, le conseil d'administration, l'organe principal de l'ICAN, a dû, à son acte de constitution, représenter toutes les régions. Il doit toujours avoir un représentant de chaque région d'ICAN. Donc, on a un représentant de l'Amérique latine aujourd'hui, c'est M. Navarro, et on a des représentants de l'Afrique et des autres régions, y compris ces régions qui sont en voie de développement. Et entre les décisions du Conseil, les représentants des régions en voie de développement participent toujours lorsqu'ils voient qu'il y a des politiques qui requièrent de ce type de vision envers ces zones. Je vais répondre plus brièvement. Non, on n'a préassigné rien. Ce sont des politiques qui ont été décidées par la communauté. Et tous les membres avec des assignations d'adresse IP peuvent le faire. Mais ce principe est contrôlé par d'autres, bien sûr. On a des parties de l'espace qui ont été allouées. Je ne sais pas exactement comment, mais Luis Avija, un membre de la CNIC qui est ici présent, c'est le gérant des membres, travaille directement sur ce sujet. Donc, j'aime bien vous présenter qui c'est qui est responsable de ceci. On a des parties de l'espace qui ont été réservées pour des organisations qui n'appartiennent pas à la CNIC aujourd'hui, qui veulent l'être, mais qui manquent de ressources. Mais ceci ne porte pas sur la taille du marché ni avec les préallouements. C'est plutôt par rapport aux demandes à travers le temps. Et le modèle de ce forum qui définit les politiques, établit ces règles. Ce n'est pas la CNIC qui le fait. Puisque j'ai présenté Luis Avija, je voudrais répondre ponctuellement un autre aspect, le mentionner, et c'est qu'on peut être membre de la CNIC non seulement pour recevoir des ressources IP, mais aussi pour participer des processus de développement de politique, des questions d'assemblée de notre organisation, ce qui est relié à des aspects plus directs. Et on a des membres de la société civile ou du côté académique. Et on est intéressé aussi à avoir la participation de ce type d'organisation au sein de notre structure. Et c'est une possibilité que vous pourriez avoir, peut-être, si vous avez intérêt à participer, pour le cas des Latino-Américains ou des gens des Caraïbes. Pour le cas de la CNIC, on devrait voir si vous êtes intéressé. Donc, vous devrez parler à Luis Avicha. J'ai dit ce même commentaire à la CRALO, d'être associé à la CNIC sans recevoir des ressources, mais on pourrait participer activement. Si ce n'est pas une société, mais un individu qui veut faire partie du forum de politique, vous êtes bienvenu à le faire aussi. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et merci de vos questions. Encore une fois, je sais qu'on a encore des questions. Je vais vous demander de me les envoyer par email et je les transmettrai à Andrés et Rodrigo. Merci beaucoup, beaucoup, monsieur. C'était merveilleux. J'apprends à chaque fois, même quand j'étais en train de taper tout ceci. J'ai beaucoup appris et merci beaucoup à tous de